Gaston Vassy, Les sabots de l'homme racine. J'ose dire que, si en rémunération du présent article, je voulais autant de fois un franc qu'il va être vendu d'ici au jour de l'an, d'exemplaires des contes de Perrault, ce serait de la littérature un joli prix. Comme chaque année, Barbe Bleue, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant et Le Petit Poucet vont triompher sur toute la ligne. Je suis donc en plein dans l'actualité en vous racontant aujourd'hui une histoire qui a peut-être été bien donnée à Perrault, qui a l'idée de fameuse botte de 7 lieues, car bien qu'elle n'ait jamais été imprimée, ma légende de vieille date des années antérieures à Perrault, et il s'agit, comme vous allez le voir, d'un conte bien allemand. C'est d'Outre-Rhin que je l'ai rapporté. Parmi les forêts de Thuringe, une des plus grandes et même en tant qu'une des plus épaisses et une des plus mystérieuses, était incontestablement celle de Fichtelwald. Elle jouissait dans le pays d'une mauvaise réputation et les voyageurs craintifs qui la traversaient lorsqu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Elle n'était pas inhabitée, cependant, et par-ci par-là, c'était des chaumières de sabotiers et de bûcherons. Ceux-là, lorsqu'ils venaient dans les villages voisins pour vendre leurs marchandises, sabots ou coupes de bois, ne manquaient pas de compter sur les hôtes surnaturels de la forêt de riches légendes, toutes sortes de légendes effrayantes, dans le but de décourager la concurrence et de jouir tranquillement des bois qu'ils habitaient. De toutes ces histoires auxquelles eux-mêmes ne croyaient que vaguement, faute d'avoir jamais vu ni entendu rien de précis, celle qui revenait le plus souvent était celle de l'homme racine. L'homme racine, disait-on, était un gnome fantastique, moitié homme, moitié mandragore, haut d'un pied, et semblait taillé à coups de serpe dans une racine de chêne. Ses bras, ses jambes, son corps lui-même étaient tout contorsionnés. Tel quel, il était le seigneur de la forêt, et malheur à ceux qu'il rencontrait le soir. Ceux-ci, on ne les revoyait jamais. L'homme racine avait pour les escamoter toutes sortes de procédés plus ingénieux les uns que les autres, et généralement sortis de l'imagination des conteurs. Or, de tous ces conteurs, ce que l'on écoutait avec le plus de plaisir et de peur et de curiosité était incontestablement le sabotier Hans. Il était très habile de son état et savait en moins d'une heure tirer une paire de sabots d'une bûche. Mais c'était un méchant homme dont le plus grand plaisir était de faire du mal, de torturer les animaux, de tourmenter les gens. et malgré tout, très recherché dans les veillées, tant il était beau diseur. Et lorsqu'il racontait les tours diaboliques de l'homme racine, les poitrines haletaient, les rouets s'arrêtaient, et le vent qui pleurait au dehors faisait aux auditeurs l'effet de voix d'un des trépassés, si bien que tous se serraient les uns contre les autres. On a beau avoir mauvais cœur, on n'en est pas moins susceptible d'être amoureux. Et c'est pourquoi Hans l'était devenu un jour. Le sabotier s'était avisé de se s'éprendre de la jolie Gertrude. Bon, un vilain nom, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Puisque je le répète, cette histoire, sans rien inventer, fille d'un ramoneur, d'un tanneur de la lisière de la forêt. Le matin du jour où commence notre récit, Hans avait demandé la main de Gertrude. Et celle-ci, qui s'était, avec l'agrément de son père, fiancée la veille à son cousin, l'avait repoussée avec perte. Le sabotier était alors entré dans une colère si terrible et avait proféré de telles menaces contre les deux amoureux que ceux-ci s'étaient enfuis sans dire où ils allaient pour se marier dans quelques villages éloignés. Hans, en apprenant cette nouvelle, avait repris le chemin de la chaumière en blasphémant le nom de Dieu et était rentré en forêt. Il était 8 heures du soir et il faisait nuit noire. Malgré sa rage et sa préoccupation, Hans, tout en suivant le large sentier qui menait chez lui, ne put s'empêcher de remarquer que la forêt avait une physionomie inaccoutumée. Les branches dénudées, au clair de lune, semblaient s'agiter comme des bras. Des flammettes dansaient au-dessus de l'eau des fossés. On entendait des battements d'ailes produits par de gros oiseaux qu'on ne voyait pas. Et de toutes petites voix semblaient sortir des troncs des ormeaux et des chênes. Bref, il y avait du fantastique plein l'air. Mais Hans ne croyait pas aux choses de l'autre monde, avec lesquelles il terrifiait les autres, et les gnomes, les follets, les spectres. L'homme racine lui-même lui faisait hausser les épaules ordinairement quand il y pensait. Ce soir-là, pourtant, il se sentait tout chose. Une vague terreur se mêlait à sa colère lorsqu'il arriva enfin devant sa maison. Une grande surprise l'y attendait. Tout de suite, en effet, il constata qu'il avait eu tort de mettre en doute l'existence de l'homme racine, car par la porte ouverte, il aperçut, du premier coup d'œil, en train de se chauffer devant le feu, le petit monstre, prétentieusement vêtu d'habits de couleur voyante, qui pendait sur ses membres difformes comme des loques sur un épouvantail. Il s'était installé sur un tabouret et en tenant ses genoux pointus entre ses longues mains aux doigts filamenteux. Sa bouche et son nez étaient placés tout de travers, comme dans ces marrons que sculptent les enfants. Et c'était comme un petit chapeau à plumes qui lui donnait la figure la plus ridicule du monde. Bonsoir, Hans, dit-il d'un ton aimable, avec une voix qui semblait sortir du bois sec. Assieds-toi et conte-moi tes peines d'amour. Allez-vous-en, gronda le sabotier, dont le naturel malhonnête reprenait le dessus. J'ai pas besoin de vous. Hans, reprit le gnome, tu es vraiment bien impoli avec un ami qui t'apporte le moyen de rattraper Gertrude ce soir même. Vous dites? Interrogea Hans palpitant. Je dis que, si tu veux te donner la peine de m'écouter, je vais remettre Gertrude en ton pouvoir, et son amoureux aussi. Quelque avance qu'ils aient sur toi, tu les rattraperas en 5 ou 6 minutes avec les sabots de Miltoise. Les sabots de Miltoise, oui, des sabots sorciers qui, à chaque pas, te font franchir Miltoise à leur propriétaire. Suis-moi. Tu vas les fabriquer toi-même et tu mettras immédiatement en chasse. Je te donnerai un feu follet pour me guider et tous les obstacles disparaîtront, eux-mêmes devant toi. Pendant ce court colloque, le temps avait brusquement changé. Des nuages noirs couraient maintenant au ciel avec des allures toutes dégingandées. Quand il passait au-dessus du bottier, du sabotier de l'homme racine, il semblait s'arrêter une seconde comme pour les regarder curieusement. La lune avait une figure ironique, ce qu'en style moderne on appellerait un air blagueur. Mais Hans, tout entier à ses projets de vengeance, et enveloppé jusqu'au nez dans sa peau de bique, ne voyait rien de tout cela. L'homme racine allait toujours à cloche-pied et paraissait extrêmement gai. Ils marchèrent un quart d'heure environ et enfin débouchèrent dans une grande clairière éclairée d'une pâle lumière, bien que la lune fût couchée à ce moment-là, et au milieu se dressait un gros chêne dont les branches se tordirent et frissonnèrent en même temps que leurs extrémités s'allumaient de lueurs vertes. Nous sommes arrivés, dit l'homme racine. Dépêche-toi de fabriquer tes sabots. En même temps, une grosse branche morte tomba au pied de Hans. Le sabotier tira ses outils de sa poche, saisit la branche et se mit à l'ouvrage, sans s'occuper d'une demi-douzaine de gnomes qu'il regardait curieusement, d'un cercle de gros hiboux et de chauves-souris aux yeux de feu qui s'étaient formés autour de lui, et de têtes de mort qui sautaient entre ses jambes à la façon des grenouilles, ainsi qu'il sied dans une bonne histoire allemande. Certaines étoiles indiquaient 10 heures et environ, et il avait fini les sabots. Oh, c'est parfait, parfait, dit l'homme racine. Mets-les maintenant à tes pieds et en route. Tu n'as qu'à suivre le follet que voici. Ainsi que je le disais tout à l'heure, les obstacles s'écarteront devant toi. Et le gnome ajouta d'un ton quelque peu moqueur, bonne chance, ami Hans. Hans le suivait avec la plus grande facilité, conduisant comme il le voulait ses sabots magiques. Il fit ainsi une centaine de pas, puis il poussa en manière de rugissement, où il y avait à la fois de la joie et de la colère. À 100 pas devant lui, sur la grand-route, il venait d'apercevoir Gertrude et son cousin qui marchaient très froidement, cendrement enlacés. Pour les atteindre, il fit un mouvement et 2 nouveaux pas en avant, mais voici que se produisit une complication inattendue. Ces sabots sorciers franchissaient bien 1000 toises à chaque enjambée, mais ces enjambées ne pouvaient être moindres. Alors il dépassa donc considérablement les 2 amoureux qui, à son passage, firent un grand signe de croix. Avec un cri furieux, mais toujours précédé du feu follet qui semblait s'amuser de plus en plus, revenant sur ses pas, d'un mouvement de nouveau, il dépassa le couple qui avait pris sa course en invoquant le bon Dieu et avait déplacé, s'était déplacé en avant. Et cependant, pendant 2 heures, avec l'aide du Très-Haut, cette chasse fantastique dura ainsi sans résultat. Enfin, une cloche lointaine sonna minuit. Alors, les diaboliques sabots qu'Hans avait jusque-là qu'il avait jusque-là conduit dans la direction qu'il voulait, sans pouvoir cependant régler leur élan, prirent possession du méchant homme, suivant la prédiction de l'homme racine, et l'emportèrent en quelques enjambées à l'une des bouches principales de la caverne du diable, situé en Bavière, comme chacun sait. L'homme racine l'attendait poliment sur les bords du gouffre et le salua d'un geste de bienvenue pendant qu'il dégringolait au milieu d'un tourbillon de flammes rouges. Quant à Gertrude et à son cousin, ils furent heureux et, comme bien vous pensez, eurent beaucoup d'enfants. Tel est ce vieux conte bleu, d'où, ainsi que je le disais en commençant, Perrault a peut-être tiré son chapitre sur des bottes de 7 lieues.